RMC, cours numéro 1.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre podcast téléchargeable sur toutes les plateformes. Podcast tennis de RMC et nous débriefons la finale dames et la victoire de Mira Andreeva avec Sarah Pitkowski et Eric Salio. Salut à tous les deux.
Salut à tous.
Salut.
Mira Andreeva s'est donc imposée face à la Polonaise sortie des qualifications Maja Rwalińska, 6-3, 6-2, 1h22. Sarah, bon, on le savait, on l'avait dit, les clés de ce match, c'est Mira Andreeva qui les avait et elle a parfaitement tenu malgré, allez, un début de match avec de la crispation de part et d'autre. Les quatre premiers jeux ont été quatre breaks.
Oui, les quatre premiers jeux ont duré 25 minutes d'ailleurs, avec vraiment des longs rallyes où les joueuses s'observaient. Il y a effectivement eu ces breaks contre breaks. Mais effectivement, la logique a été respectée dans cette finale et la magie de l'épopée de Rwalińska s'est arrêtée. Il faut saluer, en tout cas moi je salue véritablement la préparation tactique d'Andreeva qui a vraiment pris par le bon bout ce match et elle méritait la victoire parce que c'est pas Rwalińska qui a moins bien joué aujourd'hui, c'est vraiment Andreeva qui a trouvé les solutions pour annihiler ce tennis qui a fait tant de dégâts pendant trois semaines.
Elle a été patiente Andreeva parce que dès qu'elle a trouvé la clé, ça a vite défilé dans le premier set, elle enchaîne plusieurs jeux d'affilée, Eric.
Oui, et puis il y avait aussi le vent qu'il fallait maîtriser. C'est pour ça aussi peut-être que Mira Andreeva était un peu, attentiste au début. Elle voulait aussi jauger la balle adverse parce qu'on a beau être préparé par son coach, il faut être en face pour se rendre compte des effets que l'autre t'envoie. Et elle n'a pas été déçue parce qu'il y a eu une petite campagne d'amorti qui a été payante de la part de la Polonaise. Et elle vire en tête à 3-2. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu le caractère de la championne, quoi, qui a pris les choses en main et qui n'a pas lâché sa proie. Quoi. De toute façon, elle avait plus d'atouts dans son jeu, elle était plus puissante. Elle défend presque aussi bien, je trouve, que Rwalińska, parce qu'elle aussi, elle s'est slicée en coup droit quand elle est en bout de ligne. Et je pense qu'elle était un peu émoussée aussi, notre amie Maya, parce qu'on le rappelle, elle a commencé son épopée le 18 mai. Avec un match sur le Linglen contre Alice Ramé en qualif, rendez-vous compte.
16 heures de jeu, je crois, au total.
Eh oui, donc à un moment, tu payes la note. Et puis je pense qu'elle a pris un petit coup sur la tête après la perte du premier, où je pense qu'elle a senti que le rêve arrivait à sa fin. Quoi. Et on a même eu peur qu'elle finisse sur une bulle. Et heureusement, donc elle a pu sauver deux jeux. Mais bon, le plus dur avait été fait par Andreeva, chapeau à elle, parce que... Bon, c'est un peu normal quand tu es habitué à jouer des grandes finales. Elle a quelques titres quand même prestigieux, Indian Wells, Dubaï. Et quand on regarde le CV de Rwalińska, elle jouait Florianopolis, Auréas. Elle jouait pas la même catégorie. Mais le compte de fait est merveilleux. Bon, voilà, à un moment, il faut que ça s'arrête. Hein.
Mais c'est vrai que Andreeva, elle a pas dégoupillé, même s'il y a eu quelques points fébriles, il y a eu des doubles fautes, il y a eu un smash dans le filet juste avant. Mais. Elle était patiente, elle a vu que Rwalińska pouvait globalement faire des amortis que d'un seul côté du court avec le vent notamment, là juste devant nous, donc à la droite de la chaise de l'arbitre pour Rwalińska, et elles étaient d'ailleurs très bien touchées, et Andreeva, bien qu'en étant dessus, n'a pas pu, mais elle a, tu le disais Sarah, Conchita Martinez, sa coach, allait la conditionner, et c'était le cas, elle n'a pas dévié de sa ligne.
Absolument, la tactique était, la manière de jouer était très claire, c'est un... Se dire que son adversaire, dans l'absolu, ne peut pas lui faire de mal. Elle n'a pas de grands coups. Donc, elle ne se précipite pas à vouloir jouer plus vite et frapper fort, parce que c'est comme ça qu'on se dérègle. Et puis après, il y avait des conditions atmosphériques qui étaient très changeantes avec ces bourrasques de vent. Et là, dans ce genre de situation, il y a deux choses à faire. Un, c'est lancer sa balle un peu moins haut au service pour éviter que la balle dévie. Donc, ça permet de garder son timing au service et de coller au rebond de la balle pour éviter d'avoir les changements de direction de dernière minute. Et ça correspondait aussi au tennis de Rwalińska qui, une fois vous fait un lift, une fois vous fait un slice. Et donc, on a vu qu'Andreeva, dans ses replacements, elle était toujours très près de la ligne pour coller au rebond et puis surtout pour anticiper sur les amortis. Donc, en fait, elle n'a jamais perdu les pédales. Alors évidemment, elle ne peut pas gagner tous les points, Andreeva. Mais on a vu finalement que le tennis de Chvalinska l'a dérangé peu. Et puis après, il y a aussi ce côté service. C'est-à-dire que Ralinska, malheureusement, n'a gagné que 50% de points derrière sa première balle. Donc elle est forcément exposée. Et 30% derrière la deuxième. Donc face à une top 20, enfin une top 10, puisqu'elle est 8e mondiale, c'était la première fois qu'elle jouait une top 20. Eh bien, elle a dû aussi se rendre compte qu'il y a certaines vitesses de jeu qui sont pas pareilles. Et là, dans ce genre de situation, tes points faibles ressortent. Et le service reste quand même un point faible pour Ralinska.
Elle commence d'ailleurs le premier point du match par une double faute. On s'est regardé, Sarah, on s'est dit un peu de tension. Elle s'est un petit peu reprise, mais derrière, ça atteignait que rarement au-dessus des 150 km/h. Même si c'est vrai qu'Andreeva aussi, son service s'est dégradé alors que c'est son arme forte, Eric. Mais sa puissance a quand même fait la différence. On a vu que ses coups de butoir, elle faisait reculer la Polonaise qui était à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de sa ligne. Et à un moment donné, l'essuie-glace, en sortant des qualifications, en jouant son 10e match, eh ben on est de plus en plus en retard sur la balle.
Ouais, mais en plus, elle avait une foule, bon, je ne vais pas dire hostile, mais il fallait admettre que le public poussait derrière ton adversaire. Non, elle a été très solide. Et finalement, on se rend compte qu'elle avait abordé ce Roland pas forcément dans la peau d'une grande favorite, parce que quand tu regardes son parcours sur terre cette année, elle perd en demi à Stuttgart contre Rybakina. Bon, Madrid, elle s'incline en finale contre Kostiuk. Rome, elle tombe contre Coco Gauff. Donc, elle n'était pas vraiment dans les radars des bookmakers. Et finalement, elle a su profiter aussi d'un tournoi Chamboultou, parce que Rybakina qui saute très vite. Après, il y a eu le désastre Zabalenka. La voie était ouverte et elle s'est engouffrée dedans. Donc, de toute façon, à 19 ans, c'est le premier d'une longue liste. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et moi, je me souviens d'une interview que j'avais faite avec Jean-René Lisnard. C'était à Wimbledon, c'était un podcast court numéro 1. Et il était sûr que cette fille allait en gagner beaucoup. Il parlait de prodige, mais il ne fallait pas qu'elle perde l'avance qu'elle avait sur les autres. Et il y a un moment, elle l'a un peu perdue. Parce qu'elle l'a dit, Cookie, alors Cookie c'est dur à traduire, mais elle a un sacré caractère, hein, Sarah.
Et je suis un peu casse-pied.
Oui, pour rester poli. Elle peut être un coachable, quoi, grosso modo, elle écoute que ce qu'elle a envie d'écouter. Et d'ailleurs, ça correspond aussi à son discours de fin de match, qui, alors là, on n'en avait jamais vu des comme ça. Donc après avoir remercié tout le monde, son adversaire, ceux qui ont fait que ce tournoi a été possible, tout son clan, Conchita Martinez, elle a dit je dois rajouter un petit mot, je dois me remercier moi-même, je dois me féliciter moi-même pour le travail fourni pendant toutes ces années et que je dois croire en moi. Donc voilà, c'est un peu inédit ce type de discours, mais ça montre bien que voilà, elle a démarré en jouant au tennis avec des rêves, mais peut-être qu'elle n'en était pas totalement consciente. Et là, on a vu une jeune femme, et plus une adolescente, mais on a vu vraiment une jeune femme qui a pris les rênes de cette finale et qui va maintenant être totalement capable de rivaliser avec les Rybakina, les Sabalenka, les Świątek, les Coco Gauff, parce qu'elle est rentrée dans la sphère des vainqueurs de Grand Chelem.
D'ailleurs, Sarah, tiens, on écoute Mira Andreeva. C'était sur le court avec eh bien son chien qui était dans les tribunes. On en reparlera. Ça a marqué Eric, ça.
Last but not least, I also want to thank myself for believing in myself, always giving my 100%, even when it's tough, trying every day to be better as a person and as a player, believing that I can do this, fighting so many demons inside of me. Only I know how tough it was for me and how nervous I was throughout these 2 weeks. So also thanks to myself for working so hard and giving my best.
Alors il y avait tout, Eric. Il y avait le t-shirt prêt pour le staff avec la photo de Mira. Son chien, parce que c'est la grande nouveauté de ce Roland, la conciergerie pour les toutous des joueuses et des joueurs. Je crois un peu plus de joueuses que de joueurs.
Oui, un peu plus de joueuses que de joueurs, mais il y en a. Et Sacha Zverev, il a un petit équel. Hein. Oui.
Et ils ont une accréditation en bonnet du fort. Alors, je ne sais pas si on leur crédite tout ce qu'il faut sur l'accréditation.
Pour les croquettes. Oui.
Le bar à croquettes, il faut très patch.
qu'ils en profitent parce que Wimbledon, ça ne pourra pas nudge the road. Hein, donc, non, je voulais revenir sur ce que disait Sarah. Il y a un côté marketing peut-être un peu gênant parce que elle a changé de chaussures avant d'aller sur le podium et puis elle a mis le survêt avec sur le côté gauche, je crois. Le
I want to thank myself. Je dois me remercier moi-même.
Ce à quoi faisait allusion Sarah. Donc voilà, c'est un côté marketing qui est préparé. Ça me fait penser à Maria Sharapova qui, à chaque fois qu'elle gagnait, allait dans son clan et c'était Jérôme Bianchi qui lui glissait discrètement la montre pour qu'elle la mette. Bon. D'ailleurs, puisque c'est féminin, on est habitué.
Oui, bah, même chez les hommes, hein. Comment dire.
Alcaraz.
Non, mais Djokovic, le premier soir, enfin le premier jour, est rentré avec une veste au-dessus de sa tenue qui était faite avec de la terre battue. Oui, on est dans le marketing, ça fait partie. Et on parle des tenues de Naomi Osaka, qui nous a fait un défilé de mode à chaque fois qu'elle rentrait sur le court. Voilà, je pense que ça fait partie du folklore. Et moi, je trouve ça. Enfin, ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que ça, oui, le tennis est un sport ultra médiatisé, donc pourvoyeur de nombreux story marketing. Et ça s'imbrique. Mais ça ne change pas les règles du tennis pour autant. Hein.
Non, et puis on a eu le plaisir de voir parfois de loin André Agassi qui est là, qui était quand même un spécimen du genre pour casser les codes, comme on dit.
Hein. Bah, il précurseur. Dites donc, avec son short en jean et sa tenue fluo et ses cheveux décolorés en brosse long avec le bandeau. Voilà, ça marque aussi des époques. Donc oui, non, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça fait raconter des belles histoires. Et puis, le terrain de tennis, c'est une scène. Hein. Donc, il faut à un moment avoir la tenue qui va avec le métier.
Ah, clairement, c'est une arène. Et c'en est terminé du tournoi féminin, mais sur Miranda Andreeva, Eric, tu parlais de Maria Sharapova, c'est la troisième plus jeune joueuse à gagner un grand chelem depuis Sharapova, qui n'avait pas 18 ans, 17 ans à peine, Wimbledon 2004. Emma Raducanu avait 18 ans, je crois, au moment de son titre à l'US Open 2021, en sortant des qualifs. Tu l'as dit, vous l'avez dit en début de podcast. Elle a quand même un avenir radieux, Miranda Andreeva. Ça ne sera très probablement pas son seul grand chelem remporté quand on fera les comptes à la fin.
Moi, je pense effectivement qu'elle a... En plus, elle est brillante sur toutes les surfaces. Et je suis curieux de voir ce qu'elle va donner à Wimbledon. Je crois que c'est là qu'elle s'était révélée. Je me souviens qu'elle était toute jeune, qu'elle avait fait 8e de finale. Donc, il y a à voir. Puis, il y a aussi une autre bataille qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt parce que l'écroulement de Zabalenka fait qu'à mi-saison... Quand vous regardez le classement de la race, eh ben c'est Miranda Andreeva qui est devant, qui a le maillot jaune. Alors c'est très serré, hein, c'est ça qui est sympa, puisqu'elle est à 4928 points, donc ça prouve qu'elle a bien carburé durant toute la saison, très régulière. Je vous l'ai dit, finaliste à Madrid, ça rapporte des points. Mais là, on pensait qu'à un moment, après l'Open d'Australie, il y aurait un mano à mano entre Zabalenka et Rybakina. Et tu te rends compte qu'il y a une troisième qui peut tirer les marrons du feu et moi, je pense que sa prochaine étape, parce qu'elle est programmée, cette fille, ça sent. Hein. Le projet familial, on le sent. L'installation sur la Côte d'Azur, il y a quelques années, l'académie de Jean-René Lissard. Ensuite, elle s'est entraînée un peu à la All-In Academy. Elle picore à droite, à gauche. Mais le but du jeu, maintenant, c'est d'être numéro un mondial. Et je pense qu'elle a toutes les capacités. Parce que, en général, Sarah, ce genre de victoire, ça débloque dans la tête. Hein. Ça, c'est comme la bouteille de ketchup, c'est ça?
Et pour compléter, avant de te donner la parole, ou l'orangina, la pulpe plutôt, on sent aussi qu'elle a trouvé une stabilité dans sa structure et évidemment Conchita Martinez en premier. Alors on sait que c'est une joueuse, ça fait plusieurs années qu'on la voit venir et tu parlais des attentes marketing, hein, la fameuse marque à la virgule qui est là. Et donc ça a toujours été beaucoup staffé autour de Miranda Andreeva, mais là il y a peut-être cette stabilité aujourd'hui avec ce premier titre et c'est incarné par la présence de Conchita Martinez dans sa box.
Oui, et il y a une interview très intéressante de Miranda Andreeva qui disait oui, elle a Conchita Martinez depuis une grosse année et demie maintenant dans son staff. Pour autant, elle n'avait pas l'air de l'écouter à 100%. Et c'est ce qu'elle révèle. Elle a pris conscience, c'est récent, hein, ça a quelques semaines, elle a pris conscience de faire confiance finalement à son staff et de ne pas remettre en question les conseils qu'on lui donne. Et je pense que le match contre Kostchouk et ce match-là, c'était des matchs psychologiquement pas évident parce qu'il fallait tenir une tactique. Il fallait surtout pas sortir du plan de jeu. Il fallait rester très concentré et surtout pas avoir ces errements émotionnels comme elle a pu avoir. Et elle a prouvé qu'elle a réussi à tenir. Et elle a la récompense parce qu'en se forçant à vraiment rester bien dans le plan de jeu, elle a bouclé ses deux matchs en 2-7. Donc en plus, ça va la conforter dans le fait que si tu suis la tactique, si tu fais confiance à ton staff, eh bien voilà le résultat. En plus, le résultat, il est immédiat. Donc je pense que ça va ne faire que renforcer son travail. Et puis quand il paye tout de suite, ça te donne encore en plus envie de continuer dans la même voie. Donc je pense que elle va prendre confiance en elle et je pense qu'elle aura une autre manière d'aborder les matchs. Je pense plus de calme, moins sujette aux émotions et plus dans l'application d'une tactique. Eric le disait, elle sait faire plein de choses. Elle peut encore progresser. Je pense que vers l'avant, elle peut progresser au filet, mais elle a déjà une belle main. On voit qu'elle est capable de slicer en coup droit, de placer des amortis. Elle peut aussi se renforcer sur le haut du corps pour être plus puissante au service. Donc, en plus, elle a des points de progression.
Il faut dire que sa quinzaine est quand même assez remarquable. Un seul set concédé. Alors, elle joue Fiona Ferro, invitée au premier tour, 6-3, 6-3, 1h11. Le match qui lui a donné le plus de difficultés, c'était contre l'Espagnol Bassols Ribera. C'est le seul où elle concède un set. Elle perd la première manche, 6-3, et ensuite 6-1, 6-1. On a frisé les 1h50 de jeu, mais derrière, ça déroule. Et en deuxième semaine, 1h25 maximum par match. Elle a, c'est vrai, eu un tableau qui s'est un petit peu dégagé, mais elle a été dominatrice clinique face à Kostiuk en demi. Voilà, on ne cherche pas du tout, Eric, à un petit peu baisser la valeur de ce grand chelem, parce qu'elle a fait quand même preuve d'une très grande maîtrise. Quand on l'avait vu dégoupiller face à Loïse Boisson l'année dernière en quart de finale, si on nous avait dit un an après que Mira Andreeva ferait preuve de cette maturité, serait aussi concentrée, on n'aurait peut-être pas forcément signé tout de suite.
Non, absolument. Bah, elle a grandi tout simplement. Je pense que l'apport de Conchita, comme l'a dit Sarah, c'est ultra important. Et le symbole est rigolo, puisque c'est Marie Pierce qui a remis le trophée. Et Marie Pierce avait gagné en 2000 face à Conchita Martinez. Je suis sûr qu'elles se sont rencontrées dans les coulisses de Roland-Garros pour se remémorer ce match, cette finale magnifique. Non, maintenant, je vous le dis, je pense qu'elle peut voir plus haut. Et ouais, elle a marqué les esprits, parce que 19 ans, afficher une telle maîtrise pour aller chercher un titre majeur, c'est remarquable. Donc, moi, j'attends la suite avec impatience, parce que je ne voudrais pas être déçu. C'est une fille qui a tout. Dans la trousse à outils, elle a tout. Elle a tous les outils. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Alors, parfois, ça peut être un handicap, parce que dans le choix des coups, bah, tu peux te tromper quand tu as trop de choses à disposition. Mais là, franchement, aujourd'hui, elle a été patiente dans le vent. C'était pas simple. Elle a tenu ses nerfs. Elle n'a jamais montré de la moindre fébrilité. Non, chapeau, une star is born. Mais maintenant, on va aussi rendre hommage à Maya, parce que la grande question qu'on se pose, bon, est-ce que Wimbledon va lui éviter les qualifs, puisque vous savez que le cut pour Wimbledon était fait il y a une quinzaine de jours, donc elle n'a pas le classement pour jouer Wimbledon. Donc ça veut dire que si Wimbledon ne lui donne pas de wildcard, elle devra faire les qualifs. J'espère qu'ils auront un geste. Bon, l'an passé avec Loïse Boisson, il n'avait pas eu de geste, mais là c'est quand même une finaliste d'un majeur, c'est un peu l'échelon au-dessus, quoi.
On verra, ou peut-être qu'elle veut aussi ne pas faire de saison sur herbe, on ne sait rien. Pour Rwalinska,
il va déjà falloir récupérer, hein, parce que ce n'est pas 15 jours de tournoi qu'elle a eu, elle, c'est 3 semaines. Donc je pense qu'il va y avoir aussi une descente émotionnelle, physique, qui va être importante. Tu sais, si l'année dernière, alors que Wimbledon et Roland-Garros font... ils font des échanges ? Non, ils font pas.
Il n'y a pas d'échange d'invitation.
Non, je crois pas que Wimbledon cédera à la demande de Rwalinska s'il y en a une. C'est pas le genre. C'est pas le genre où ils le donnent. Les passes droits, c'est pas leur plus grande qualité. Je sais pas si on appelle ça qualité, mais en tout cas, ils
encore plus depuis le Brexit, c'est Yuki first. Hein.
Oui. Non, mais moi, j'y crois pas du tout. Elle a pas.
Hormis 10.
Allez, hormis 10.
Non, bah, j'ai regardé les Anglaises qui ont besoin d'une wildcard. Il y en a pas tant que ça. Donc, je pense que là, ils vont prendre cher, les Anglais, s'ils lui filent pas une invite à la Polonaise quand même.
Il y a peut-être une invite pour Serena.
Il y a peut-être une invite pour Serena, absolument. Oui, il y a peut-être une invite pour Serena. Pas en simple quand même, peut-être en double. En simple, ça fait quand même un peu juste. Revenir un tournoi avant Wimbledon pour demander une wildcard de simple, ce serait quand même... Enfin, j'y crois pas trop. Mais on remet 10, Eric. Je pense que... Moi, je pense qu'ils céderont pas.
Voilà pour ce tournoi et en tout cas, c'est cette finale dame, le simple dame. Tiens, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé chez les femmes, Eric, qu'est-ce qui te vient? Bon, on a envie de dire en gemme la fabuleuse aventure de Maja Rwalińska.
Bah, ce que j'ai aimé, vous allez me dire que je suis un peu pervers, mais c'est l'autodestruction de Sabalenka. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est un régal parce que elle avait la qualif au bout de sa raquette et son écroulement est totalement incompréhensible. Alors, c'est un mélange de conditions météo, de tempête sous un crâne.
De souvenirs de l'an passé.
Ouais, non, mais c'est extraordinaire, quoi. Quand tu perds 10 jeux d'affilée comme ça, que tu sombres, que tu parles de trous noirs, que tu as envie de trouver les fameuses rooms où tu peux te défouler. Non, la conf était absolument géniale, je trouve.
Et puis, surtout, Sarah, tu me disais, c'est une joueuse, elle roule un peu des mécaniques avant d'entrer sur le court. C'est une star du circuit, donc il y a un peu tout ça qui va avec, mais de la voir se déliter aussi totalement, et pas pour une première ici à Roland-Garros, ça fait toujours un peu stupéfait.
Oui, mais c'est en fait, son pire ennemi, c'est elle-même, parce que c'est pas l'adversaire qui la bat, elle se bat toute seule. Donc oui, c'est un peu désolant de voir la numéro 1 mondiale avoir des failles mentales béantes comme ça. Et puis, je crois que même le plus grand des néophytes et de non-amateurs tennis se rend compte qu'il se passe quelque chose quand tu vois qu'elle sort d'elle-même complètement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le match entre Svitolina et Kostyuk. J'ai bien aimé la qualité de ce tennis, puis j'ai bien aimé la fin du match, parce qu'on est quand même sur un passage de témoin entre Kostyuk et Svitolina. Svitolina qui est 7e mondiale aujourd'hui, qui est peut-être au meilleur classement de sa carrière. Et Kostyuk qui est en train de la rattraper. Kostyuk qui disait que son idole, c'était Svitolina. Et Svitolina qui lui a offert sa raquette à la fin du match. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce... Il portait plein de valeurs, ce match. Ce que j'ai moins aimé, je suis en train de réfléchir. Je pourrais dire Sabalenka aussi, mais peut-être ce que j'ai moins aimé, c'est un constat un peu délicat, mais que notre tennis féminin français, il est pauvre. Il est pauvre dans le sens où on manque de nombre de joueuses, quoi.
On manque peut-être d'espoir, parce qu'au final, il y a encore une deuxième semaine avec Diane Paris et Loïs Boisson l'année dernière, mais c'est peut-être quand on voit chez les hommes, on se dit, il y a Arthur Fils. Quand il va pouvoir se remettre, il y a Moïse, on a plus de motifs d'espoir en fait. On se dit que le bout du tunnel est moins loin chez les hommes que chez les filles.
Et puis il y a une masse de joueurs. Gracheva qui a les ligaments. Donc Diane Paris, maintenant qui va être numéro 1 française. Loïs Boisson qui sort du top 100. Elsa Jacquemot qui a beaucoup de points à défendre. Et puis derrière, on ne voit pas en fait ce qui est un peu compliqué et ça fait un peu mal au cœur, c'est de voir qu'on donne des wildcards à des joueuses qui n'ont quand même pas tout à fait encore le niveau du tableau final. Mais comme on n'a pas mieux, eh bien on veut mettre le pied à l'étrier. Mais la marche, en fait, on se rend compte que la marche est très haute. Voilà, c'est ça, que la marche est très haute. Et pour l'instant, comment peuvent-elles le combler? C'est pas évident, parce que dans les tournois de préparation, on n'a pas non plus de motif d'espoir. Sur les tournois qui sont sur terre battue, on n'a pas performé non plus. Donc, on ne va pas performer et on ne va pas faire un exploit à Roland-Garros. Donc, oui, mon point négatif, c'est le tennis féminin où on ne voit pas le bout du tunnel, quoi.
On pense à Efremova, invitée dans le grand tableau, alors qui paradoxalement, Eric, a presque fait un meilleur match pour son premier tour sur le simple féminin qu'en junior, où elle s'est totalement écroulée.
Ouais, elle est tombée sur une fille de 14 ans ultra douée. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué d'enchaîner les juniors après avoir fait le tableau final sur le Langlen. Maintenant, il faut qu'elles comprennent que la route sera longue, hein. Faut surtout pas avoir la grosse tête, mais bon, elle a Manu Planck qui est dans son coin, donc c'est pas le genre de garçon à dire que t'es la plus belle. Faut bosser, faut attendre aussi, faut être patient, mais
je suis un peu inquiet pour la tournée sur gazon, parce que quand on se souvient du match de Loïse Boisson qu'en qualif l'an passé à Wimbledon, on avait vu qu'elle avait des petites lacunes et qu'elle ne sentait pas le jeu sur gazon. Là, elle va faire en principe 3 tours préparatoires avant Wimbledon, donc il faut qu'elle débloque son compteur et pour essayer de gratter un match. Puis il ne faudrait pas qu'elle ait un tirage catastrophique, parce que là, cette année, on se rend compte que Kalinskaya, c'était beaucoup trop quoi. D'entrée, c'est une fille qui était pas loin du dernier carré. Non, je suis comme Sarah, je suis un peu dubitatif. Et même si Diane Parry a l'habitude de bien jouer sur herbe, donc maintenant, on attend confirmation, parce que, comme d'autres, elle est tombée dans le piège de Ralinska. Mais bon, faut réagir. On n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Mais là, ça devient gravissime, parce que Sarah, on en parlait, il est possible que courant juillet ou août, il n'y ait plus qu'une Française dans le top 100. Et là, ce serait catastrophique.
Je ne sais pas si ça s'est déjà... Depuis 1975, enfin en tout cas les années 70, la WTA, je ne suis pas sûr que c'est déjà arrivé une fois. On se regarde, même quand on a eu des années un peu difficiles. Donc voilà, merci Eric. Alors Sarah, tu ne seras pas avec nous demain, ça sera Flo Serra. Donc on va quand même te demander rapidement avant de se quitter un petit avis sur ce Zverev Koboli. On n'a pas eu de surprise chez les filles, est-ce qu'on aura une surprise demain?
Moi je pense que Zverev est aussi programmé, est en mission pour aller remporter son premier grand chelem. Et on a vu qu'il a une marge de progression dans les matchs, c'est-à-dire que il est capable d'élever son niveau de jeu. Il a un service, mais c'est époustouflant. Il a une deuxième balle qui aujourd'hui a un vrai point fort dans son jeu. Évidemment, le poids de la finale sera sur les épaules de Zverev, mais Koboli aussi, hein, être sur une première finale de Grand Chelem, c'est impressionnant. Mais je pense que ce sera un match qui pourra aller... Je pense que le match pourra aller...
Pas 3-7-0.
Non, je ne pense pas un 3-7-0. Je pense que le match sera beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'ils se sont joués il n'y a pas longtemps et Koboli a perdu... difficilement contre Zverev il y a quelques semaines. Donc je pense qu'on aura un match serré demain.
Et ça fait déjà plaisir à Eric de vivre encore un match épique à Roland-Garros pour la finale. Messieurs, merci beaucoup Sarah.
Moi je veux quand même apporter ma patte, ma touche. Je vais faire mon Christophe Payet, qui aime bien les stats un peu bizarres. Les 6 dernières défaites de Zverev ont été concédées contre des Italiens. Je dis ça, je dis rien.
Et c'est un Italien qui remet la coupe. On dit ça, on dit rien. Voilà.
Ne dis rien. ne dis rien. Voilà, tout simplement.
Merci.
Et rendez-vous demain.
Et rendez-vous dimanche. Merci Sarah, merci Eric. Cours numéro 1 disponible en quotidienne pendant cette quinzaine de Roland-Garros. On se retrouve évidemment dimanche pour débriefer la finale. Messieurs, ciao.
RMC, cours numéro 1.